Hello. Dans ce journal, vous entendrez Jordi Chan donner quelques détails sur ce nouveau grand projet immobilier en ville. On parlera des festivités passées avec le Eiva et le 14 juillet, mais aussi celle à venir avec les JO. Le journal de la mi-journée, c'est avec Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
Un nouveau grand projet pour le centre-ville.
Oui, le pays a lancé un appel à projet face à la gare maritime. Il s'agit de l'ancienne emprise du Royal Papeete, détruit en 2017, ainsi que de l'immeuble Farnham adjacent qui doit être rénové. Au total, 3600 m2, dont 2700 non construits. Ils font l'objet de trois lots distincts, immeubles de 8 niveaux, parking à étage de 200 places et passerelles vers la gare maritime sont prévues. Le pays veut également faire appel aux investisseurs privés. On écoute Jordi Chan, ministre des Grands Travaux.
Le pays a acquis le terrain il y a quand même quelques années. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est y développer un bâtiment à usage mixte, un parking silo, et également profiter de l'appel à projet pour rénover l'immeuble Farnham qui est situé juste à côté et dont le pays également dispose aujourd'hui. L'idée, c'est d'exploiter au maximum le financement privé. C'est pour ça qu'on a lancé un appel à projet.
Des investisseurs privés qui bénéficieront de la part du pays d'un bail de 60 ans, précise le ministre. L'ensemble combinera bureaux, commerces et appartements.
C'est un bâtiment qui normalement devrait avoir un usage mixte, donc à la fois résidentiel mais également potentiellement commercial et de services. L'immeuble devrait être compatible avec un projet qui sera porté par la puissance publique, qui est celle de la construction de la passerelle reliant la gare maritime à l'immeuble en question. C'est une contrainte qu'on a fixée dans l'appel à projet.
La rénovation de l'immeuble Farnham pourrait se faire en site occupé pour ce qui concerne les commerces ou la médecine du travail, indique le directeur de G2P Steve Fink. Mais les occupants restants de la trentaine de studios devront quitter les lieux dans les 2 ans à venir. Le pays attend les offres pour le mois de septembre et espère une signature de bail en mars 2025. Après une période de négociation et d'harmonisation entre le public et le privé, la centrale thermique Veiratoa, qui fait partie de ce pâté de maisons, elle doit être démantelée et transférée à Papeno. Là-bas, elle alimentera le futur data center Google, mais aucun calendrier n'est encore arrêté pour cette opération.
Et on reparle de notre parking.
Oui, celui qui doit desservir le nouveau bâtiment administratif et qui est situé derrière la direction de la santé. Les travaux sont en suspens depuis l'année dernière, lorsque des malfaçons au niveau des fondations avaient été détectées. L'affaire fait l'objet d'un contentieux avec l'entreprise Boyer, qui selon G2P n'avait pas respecté les préconisations du donneur d'ordre. Mais en attendant une résolution en justice, le pays a résilié le marché public et lancer un appel d'offres pour reprendre et finaliser ses travaux.
On continue avec les festivités du week-end, Lucie.
Oui, et il y en avait beaucoup. D'un côté, les dernières soirées de concours du Heiva, les Tuaro Maori au parc Veirei, les courses hippiques à Cru et en Pareu, et les courses de va en V16 à Mataya. Et de l'autre, le 14 juillet, fêté samedi pour des raisons logistiques. On commence avec les soirées du Heiva que vous pouvez revoir en photo sur notre site. La remise des prix aura lieu mercredi soir. Nous saurons enfin qui seront les grands gagnants en chant et en danse. Il est possible d'aller chercher ses places pour cette soirée à la Maison de la Culture à partir de 13h30. Aujourd'hui, la soirée est gratuite, mais le public doit avoir un billet pour entrer.
Pour les Jeux traditionnels, près de 600 athlètes ont participé.
Oui, au lendemain de ces épreuves, Enoch Loglin dresse un bilan très positif de cette édition. Le président de la Fédération des Sports et Jeux traditionnels parle d'au moins d'un millier de spectateurs sur 3 jours. Et surtout, il note la participation de 586 athlètes, des participants venant de Tahiti, des îles du Pacifique, mais arrivant aussi des États-Unis. Bref, d'un peu partout dans le monde. Si le nombre d'athlètes reste stable de ces dernières années, le niveau général monte et les cousins du Pacifique titillent de plus en plus les Haïtos locaux. Écoutez.
On voit quand même que de plus en plus nos amis du Pacifique s'intéressent et non seulement s'intéressent, mais font aussi des belles performances parce qu'ils sont pratiquement sont les 5 premiers et beaucoup sur les podiums aussi, 1, 2, 3.
Un gros travail au niveau local est encore à faire pour motiver les athlètes, surtout ceux de la zone urbaine. La fédération note toutefois depuis 2 ans un regain pour les disciplines du lever de pierre aux déporteurs de fruits par exemple. Selon lui, il existe un vivier important d'athlètes qui pourraient performer et qui viennent de la communauté toujours plus nombreuse du cross-training ou du crossfit.
Le grimper au cocotier, c'est vraiment un sport très très physique, très dur. Il faut vraiment avoir une concentration et une agilité et une force physique pour ce genre d'épreuve. Et effectivement, de plus en plus, nous voyons des athlètes de crossfit, de force athlétique, de l'athlétisme nous rejoindre. C'est une très bonne chose. Par contre, au niveau des activités plus complexes comme le COPRA, heureusement quand même qu'on a nos associations des îles.
Des propos recueillis par Veitiare Pereire.
Autre célébration, Lucie, le 14 juillet, qui a eu lieu cette fois-ci un samedi 13.
Et oui, pour des raisons logistiques, la fête nationale a été célébrée la veille. Une fête populaire à laquelle le haut-commissaire a souhaité mêler chants et danses traditionnelles. Le public a d'abord pu voir les forces de sécurité et de secours du Fénois, les agents de la base navale, du groupement aéronautique militaire de phare. Puis ce sont les cortèges motorisés et quelques avions qui ont survolé Papeete avec le dauphin, le casa et le gardien. Après l'artillerie, place à l'artistique avec l'organisation d'un véritable mini Heiva avenue Puvana à Opa. Ces représentations proposées par des acteurs de la culture ont donné du sens au discours prononcé quelques minutes avant par Eric Spitz. Le haut commissaire a parlé d'unité et d'acceptation de la diversité culturelle. Pour lui, la Polynésie est un exemple pour le reste du monde. On l'écoute.
Les trois couleurs de la République, le bleu, blanc, rouge, et la liberté, l'égalité et la fraternité que nous célébrons aujourd'hui. Et je crois que ce que j'ai dit dans mon discours, c'est que la Polynésie pouvait être un exemple pour la France, parce qu'ici, on a encore le vivre ensemble et la force de la culture Maori fait qu'on peut aussi donner, être un exemple pour la France et même pour le reste du monde.
Et à Paris, 58 militaires de la première compagnie du RIMAP ont défilé pour les festivités du 14 juillet. Ils ont été désignés pour honorer l'engagement des Tamari volontaires pour la France. Parmi ces 58 désignés, 12 n'avaient jamais quitté le Fénois. Il leur a fallu 3 semaines de préparation intense et de répétition pour être fin prêt.
Une autre fête se déroulait aussi à Punaoya.
Oui, celle de l'Orange. Concours de danse, atelier d'artisanat, concert et bien évidemment le défilé des associations et des porteurs d'orange. Les porteurs qui ont ramené les précieux agrumes des plateaux Tamanu, précieux parce qu'ils se font cette année encore plus rares que les années passées, selon l'association de protection de la vallée. La faute aux tulipiers du Gabon, aux miconias et autres espèces envahissantes qui prolifèrent malgré les campagnes de nettoyage régulières. L'association envisage d'imposer un certain nombre d'interventions bénévoles annuelles aux adhérents ou encore de faire intervenir des salariés ou des prestataires, car l'horloge tourne et les espèces envahissantes continuent de s'étendre et de grandir. En parallèle, le projet de pépinière engagé en 2019 par l'association est sur le point de se terminer. Au total, 600 plants ont été mis en pot, mais il faudra attendre au moins 8 ans avant de pouvoir les mettre en terre.
Et c'est une autre fête qui se prépare avec le plan zéro délinquance.
Oui, celle des Jeux Olympiques, bien sûr, pour laquelle les forces de l'ordre ont voulu faire place nette, comme ils l'expliquent. Depuis décembre, un certain nombre d'opérations de lutte contre la délinquance ont été organisées à Tahiti et dans les îles, en application donc de ce plan zéro délinquance lancé à l'échelle nationale. La dernière opération a mobilisé 80 gendarmes quotidiennement du 27 juin au 8 juillet pour contrôler les flux routiers, détruire les plantations, harceler les points de deal, démanteler des réseaux et mener des cyber-investigations. Pour le bilan, on écoute le colonel Grégoire Demaison, commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française. Il a répondu à nos questions lors des fêtes du 14 juillet.
On a détruit à peu près 15 000 plants de cannabis. On a réalisé une cinquantaine de gardes à vue et on a saisi plusieurs millions de francs pacifiques d'avoirs criminels. Puisque l'enjeu pour nous, comme le soulignait Monsieur le Haut-Commissaire lors de son intervention sur cette opération, c'est d'aller chercher l'argent des délinquants, d'aller frapper au portefeuille, parce que c'est ce qu'il y a de plus dissuasif pour impacter la délinquance de manière significative.
Et les contrôles vont se poursuivre, tout comme les efforts de lutte contre le blanchiment. Alors à quelques jours des JO, sont-ils prêts? Oui, assure le colonel, les forces de l'ordre ont répété leur dispositif pendant l'étape de Tahiti de la WSL, mais aussi avec différents exercices.
On a un dispositif qui est maintenant adapté à la fois aux attentes du comité d'organisation des Jeux Olympiques et adapté aux attentes de la population également, pour qu'on génère le moins de gêne possible aux habitants localement. Et donc c'est cet équilibre qu'on a cherché à trouver et je pense qu'on l'a trouvé. Donc on est en train de conduire notre déploiement opérationnel dans la presqu'île cette semaine et à partir du week-end prochain, on sera sur les différents points de contrôle pour s'assurer que cette très belle fête populaire se déroule dans de bonnes conditions.
250 gendarmes sont mobilisés sur terre et sur mer, ainsi que des forces de l'ordre public et de police judiciaire. Cela se traduira par plusieurs points de filtrage sur terre et en mer, afin d'éviter la saturation des sites olympiques et d'assurer la sécurité des lieux.
Et d'ailleurs, Lucie, le haut-commissaire a rappelé la logistique olympique.
Oui, avec la réglementation d'accès à Teahupo, le périmètre de protection autour du PK0 sera installé dès le 20 juillet pour le début des sessions officielles d'entraînement et restera en place jusqu'au 5 août. Restriction de circulation limitations de navigation et impossibilité de survoler la zone des JO. Plus de détails sur notre site radio1.pf.
En bref, ce fait divers avec cette maison entièrement détruite par les flammes.
Oui, ça s'est passé dimanche dans la vallée de Tipperary. Selon Polynésie la Première, il s'agit d'un acte volontaire déclenché par une dispute conjugale. C'est le père de famille qui sera à l'origine de l'incident qui n'a fait aucune victime. Celui-ci a été interpellé.
Et ses résultats en sport pour finir.
Oui, top 5, que des Polynésiens. On parle de rame bien sûr avec le festival Downwind organisé dans l'état de l'Oregon aux États-Unis samedi. 700 personnes ont pris le départ de cette course de 22 km. Il y avait des stand-up paddle, des kayaks de mer ou encore des pirogues au Sea-One, la catégorie dans laquelle concouraient nos Polynésiens. Kevin Serrand-Jérusalemi s'est imposé en 1h35. Il signe sa troisième victoire sur cette épreuve et juste derrière lui, Steve Teichotata qui termine deuxième. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retour de l'information pour votre flash à 16h.
Merci beaucoup Lucie, on passe à la météo sur Radio.